8h45, suite des matins sur France Culture.
Je crois que vous allez plutôt essayer de peindre à la manière d'Hans Hartung, Mathilde, puisque demain s'ouvre au Musée d'Art Moderne de Paris une exposition, une grande rétrospective. Et figurez-vous que ça vous a inspiré une théorie.
Il n'y avait pas eu de rétrospective du peintre Hans Hartung depuis 50 ans. Celle qui s'ouvre demain, en même temps que réouvre le Musée d'Art Moderne de Paris, constitue une immanquable occasion de renouveler notre regard sur le maître de l'abstrait. Et à bien y regarder, celui qu'on associe au geste, à l'émotion instantanée jetée sur la toile, est en réalité un peintre du calcul. Au vrai, l'abstraction dite lyrique d'Hartung est une abstraction mathématique. C'est ma théorie. T1961H4, T1963E45, H1971R29, T1989U25 ou encore T1989K32. Pour commencer, circuler dans la rétrospective Hans Hartung, c'est suivre une série de coordonnées. Ainsi, ces toiles ne sont pas titrées avec des mots, mais systématiquement désignées par une combinaison de chiffres et de lettres. Pourquoi, à mon sens, Hartung procède à une véritable mise en équation de l'univers. Sa dimension mathématique, elle réside en outre dans ce qui le distingue fondamentalement des autres artistes de l'abstraction. Hartung établit un système, une méthode de report unique. Ce n'est pas l'émotion qui jaillit sur la toile, comme chez un Pollock par exemple, c'est l'agrandissement d'échelle d'une émotion. Hartung va ainsi élaborer une méthode qui consiste d'abord à produire un dessin proche de l'écriture automatique des surréalistes, puis par le quadrillage de ce dessin originel réalisé à chaud, il va reproduire en l'agrandissant le geste à froid. De même, lorsqu'il gratte et creuse une gravure ou une photographie, il va s'attacher à reformuler cette expérience sensible sur la toile grand format. Ainsi, Hartung recherche bien une formule à la fois géométrique et artistique, celle du maintien d'une sensation d'un médium à l'autre. La recherche de cette formule de reproductibilité le rapproche d'une démarche scientifique. Ce qui n'a rien d'étonnant au fond pour ce fils de chimiste, ce passionné de mathématiques qui voulait être astronome. Hartung se bricolera d'ailleurs adolescent son propre télescope ainsi que son premier appareil photo. Dans le film que lui consacre Romain Goupil pour Arte, on découvre la naissance de son approche. Plus petit, lorsque grondaient les orages à Leipzig où il a grandi en Allemagne, le jeune Hartung traçait des éclairs sur son cahier d'écolier. Il essaya de les dessiner à la vitesse de l'éclair, justement, pour, je cite, « conjurer la foudre ». La rationalisation du sensible dans ce qu'il a de plus spontané et de plus éphémère l'a donc toujours guidé. Ce n'est pas non plus un hasard si Hartung, peintre en devenir, reproduira un de ses devoirs de mathématiques en 1922 lors de ses premières expérimentations à l'aquarelle qui le conduiront à l'abstraction. À observer les grandes toiles d'Hartung et leurs taches en halo, on retrouve également la représentation des découvertes scientifiques qui jalonnent le XXe siècle, que ce soit la théorie des trous noirs ou encore la scission de l'atome. Ces dernières toiles parviennent même, Étienne Klein, à une forme de matérialisation du vide. Enfin, celui qui a peut-être le mieux perçu cette dimension mathématique d'Hartung, c'est un de ses plus grands admirateurs, qui était aussi un passionné des théories de Pascal, Éric Rohmer. Pour lui, il y a Vinci, Turner et Hartung. Comme le montre Pauline Marie dans son livre « Hartung, nouvelle vague », Rohmer, le cinéaste pascalien, retrouvait chez Hartung l'univers comme une sphère infinie dont le cercle est partout et la circonférence nulle part. Il voyait dans ses toiles la vibration des espaces infinis. L'art abstrait d'Hartung, comme celui que recherche Rohmer au cinéma, n'imite pas les formes préexistantes de la nature, mais fait le pari pascalien de mettre l'univers en équation.
Eh bien, nous allons faire réagir un mathématicien et un physicien, Michael Launay, pour les maths.
Ah oui, non, mais c'est fascinant, c'est toujours assez exaltant quand on fait des liens entre deux disciplines et les liens entre art et mathématiques sont vraiment nombreux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mathématiciens et de mathématiciennes qui pratiquent les mathématiques comme un art parce qu'il y en a beaucoup pour qui, dans ce monde abstrait, eh bien, ils cherchent des théorèmes parce qu'ils sont beaux, des théories parce qu'elles sont élégantes, indépendamment même de savoir si ça peut servir pour le monde réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de beauté, d'élégance en mathématiques qui est assez fascinante.
Et quand vous regardez un tableau, est-ce que certains peintres, Michael Launay, vous paraissent être de bons matheux?
Oui, il y a des mathématiques qui sont utilisées pour faire les tableaux. Alors évidemment, il y a toute l'histoire de la peinture. Quand on regarde l'évolution de la perspective, par exemple, il y a des mathématiques qui vont derrière. Selon l'inspiration, il y a des artistes. Je pense par exemple à Ulysse Lacoste qui fait des sculptures qui utilisent beaucoup des mathématiques, des formes qui bougent, des formes qui évoluent. dans l'espace. Et c'est assez fascinant. C'est-à-dire que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un mathématicien, quand il voit ça, il peut expliquer, il peut comprendre des choses. Et puis en même temps, c'est très beau.
Étienne Klein.
Je vais me précipiter dans cette exposition. Ce que vous avez dit sur le vide m'interpelle. Ça renvoie à des textes de Miro sur le fait que quand on met du vide dans un tableau, on gagne en intensité. Et puis cette tension que les artistes comme Hartung élaborent entre le concret, le sensible et puis l'abstrait, c'est une tension qu'on pratique aussi en physique. Et le vecteur de cette tension, ce sont les mathématiques justement, qui sont une façon de comprendre le réel d'une façon abstraite. Et le miracle, c'est que ça marche. Dans beaucoup de cas, ça marche. Les équations permettent de prédire des nouveaux phénomènes qu'on détecte ensuite dans la nature, comme si elles agissaient comme une sorte de treuil ontologique. Elles permettent de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Et c'est ça qui fait que la physique ne peut pas être complètement banalisée.